Les 12 années d'exil dans la forêt s'achèvent. Ils ont été marqués par divers épisodes, dont un des plus importants est le voyage que fit Arjuna hors de ce monde pour conquérir des armes extraordinaires, des armes définitives, des armes de destruction totale. Et il est reçu de la main de Shiva lui-même, au sommet de l'Himalaya, avant de partir pour un voyage que nous appellerions aujourd'hui intersidéral. Donc, ces 12 années se terminent. Elles sont suivies d'une 13e année, au cours de laquelle ils ont dû vivre sous des déguisements, à la cour de notre roi, loin de l'Inde. Bref, maintenant, ils reviennent, et ils vont devoir réclamer leur royaume, qui va leur être refusé. Maintenant, nous acheminons, à chaque jour qui passe, vers le conflit. Et maintenant, je vais parler d'un personnage que j'ai laissé dans l'ombre jusqu'à maintenant, qui s'appelle Karna, qui est apparu au cours d'un tournoi dans la première partie et qui s'est révélé physiquement l'égal d'Arjuna, son grand rival obscur. Nous savons, nous, parce que Vyasa nous l'a dit dans le creux de l'oreille, que ce Karna est en réalité le frère secret des Pandavas, leur demi-frère. C'est un frère que Kunti a eu en secret du soleil. Karna est le fils du soleil. C'est pour cela qu'il a peur de la nuit, qu'il se sent mal à l'aise dans le noir. Et étant le fils du soleil, et étant un fils rejeté, non reconnu, bâtard, il va toute sa vie, malgré l'extrême qualité de son âme, vouer une espèce de sombre et irrésistible jalousie à ses demi-frères. C'est pour cela qu'il prend le parti, lui, guerrier très très redoutable, des Kaurava. Alors, du côté des Kaurava, nous avons non seulement Duryodhana et ses 100 frères, nous avons le vieux Bhishma qui a fait le vœu de ne jamais toucher une femme et qui, de ce fait, a reçu des dieux la permission de mourir le jour qu'il voudrait. Donc, il est invulnérable. Il est un grand combattant invulnérable. Nous avons Drona, le maître d'armes, qui a été engagé par Dhritarashtra, le roi aveugle, qui est le père des Kaurava, et qui donc reste fidèle à ce camp. Et nous avons Karna. Nous avons vraiment une armée extraordinairement redoutable. Nous avons de l'autre côté les 5 Pandavas et quelques alliés. Au milieu se trouve Krishna. Krishna va faire tous ses efforts, après le retour des Pandavas, pour la paix, nous dirions aujourd'hui. C'est une sorte d'émissaire. Il y a même tout un chapitre qui s'appelle les ambassades de Krishna. Tout en sachant au fond de lui-même, puisqu'il est une incarnation divine, que la guerre est inévitable, malgré cela, il fait tous ses efforts pour l'empêcher. Il va même, jusqu'à pour un instant, en une scène magnifique, rendre la vue au vieux roi aveugle pour se montrer à lui sous ce qu'on appelle sa forme universelle, c'est-à-dire cette forme divine qui englobe toutes les formes. Le roi Dhritarashtra en est ébloui, mais ce n'est pas pour cette raison qu'il va empêcher ses fils de faire la guerre, car il est d'un caractère faible, entièrement soumis à l'ambition dévorante de Duryodhana. Donc, Krishna a fait tout ce qu'il a pu, il le dit, et maintenant, dans une scène capitale, il reçoit Duryodhana, chef des Kaurava, et Arjuna, commandant en chef des Pandavas et son beau-frère. Et il leur dit, voilà, j'ai des amis d'un côté comme de l'autre. Il est endormi quand ils arrivent. Il se réveille, il les voit tous les deux au pied de son lit, mais Arjuna est à ses pieds, Duryodhana à sa tête. Il se réveille et il dit, je ne peux rien vous refuser, ni à l'un ni à l'autre. Nous avons des liens de famille aussi étroits avec les Kaurava qu'avec les Pandavas. Mais comme il est très malin, Krishna, il dit à Arjuna, cependant, quand je me suis réveillé et que j'ai ouvert les yeux, c'est toi que j'ai vu le premier. La raison est que par humilité, Arjuna s'était mis à ses pieds. Non, c'est toi que j'ai vu le premier, c'est donc à toi de dire d'abord ce que tu choisis. Voici ce que je te propose. D'un côté, toutes mes armées, qui sont puissantes, bien entraînées, nombreuses. De l'autre côté, moi, seul et sans armes. Qu'est-ce que tu choisis ? Alors Arjuna, immédiatement, sans hésiter, lui dit « Je te choisis, toi, moi seul, sans tes soldats. » lui dit Arjuna. À ce moment-là, Duryodhana, fou de joie et ne comprenant pas exactement ce qui vient de se passer, dit à Krishna, mais j'ai donc tous tes soldats, j'ai donc toutes tes armées. Tu les as, lui dit Krishna. Il reste seul avec Arjuna, Duryodhana sort en criant de joie et Arjuna lui dit, je veux que tu sois le cocher de mon char. Alors, il y a bien entendu dans cette phrase un double sens. D'abord, c'est très important pour un combattant d'avoir un très bon cocher, en effet, pour diriger ses chars sur son char de combat. Mais de l'autre côté, il est bien évident qu'il y a là une notion de guide, de conseiller qui va beaucoup plus loin qu'une simple action militaire. Maintenant, nous passons sur le champ de bataille. La fameuse scène mille fois représentée, les deux armées en ordre de bataille sont face à face. Et entre les deux s'avance le char d'Arjuna, conduit par Krishna, avec deux chevaux blancs, il faut l'imaginer. Arjuna est là pour donner le signal de la bataille. Le char s'arrête entre les deux armées. Arjuna lève sa trompe, son corps, nous dirions, pour donner le signal. Et au moment où il va souffler dans son corps, quelque chose en lui se brise. Ses jambes donnent des signes de faiblesse à lui, qui est maintenant un homme de plus de 40 ans, qui s'entraîne depuis sa plus tendre enfance pour ce jour-là, qui est un guerrier irrésistible. Tout à coup, ce sont ses muscles qui le trahissent. Ses jambes ne le tiennent plus, ses genoux fléchissent, comme si son corps lui disait quelque chose avant même que sa pensée l'ait réalisé. Et Krishna lui dit, mais que se passe-t-il? Pourquoi cette honteuse faiblesse? Et Arjuna lui dit en montrant l'armée en face, mais regarde, ils sont tous là, mes parents, mon oncle Bhishma, tous ceux qui m'ont élevé, comment pourrais-je tuer ma propre famille? Alors là, entre les deux armées, et pendant un long moment, Krishna suspend le temps et commence à donner à Arjuna ce fameux enseignement qu'on appelle la Bhagavad Gita. Le chant du bienheureux. Gita, c'est le chant du Bhagavat. C'est le texte sacré le plus complexe, le plus dense, le plus fameux de tout l'Orient. Je ne peux pas, bien entendu, en donner tous les détours, tous les niveaux qui sont très riches. Mais il faut dire quand même que, au cours de cette transmission, qui se fait là, sur le char, au milieu d'un champ de bataille, allégoriquement, la situation est passionnante et très forte. Krishna redresse Arjuna en lui disant d'abord qu'il doit suivre son dharma, ce pourquoi il est fait, qu'il doit agir. La Bhagavad Gita est souvent considérée comme un guide pour l'action. Il faut agir, mais pas n'importe comment. Il faut agir en oubliant les fruits de l'acte, sans espérer retirer de son action un bénéfice, quel qu'il soit. Il faut agir pour la droiture de l'action. Arjuna lui dit toujours, mais je ne peux pas tuer mes parents, je ne peux pas lancer cette guerre. Pour le convaincre, Krishna va beaucoup plus loin. Il commence alors à lui donner tout le système du monde qui est au centre même de l'hindouisme, de lui donner une vision complète des êtres et des choses. Et bien au-delà encore, ne parvenant toujours pas à convaincre Arjuna, là, sur son char, en présence des deux armées qui ne le voient pas, Arjuna est le seul à le voir, Krishna se révèle à lui, pour la deuxième fois dans le poème, sous sa forme universelle, qui est irrésistible. Et dans la bouche grande ouverte de Krishna, Arjuna voit toutes les armées du monde pénétrer, se détruire et renaître. Alors ce mouvement perpétuel, irrésistible, inévitable, qui est celui du jeu entre la mort et la vie. À la fin de la Bhagavad Gita, Arjuna se relève, souffle dans sa trompe et donne le signal de la bataille. Donc il faut bien voir que cette Bhagavad Gita, que l'on lit souvent isolée, hors de son contexte, est en réalité le centre, non seulement le centre géométrique, mais le centre de rayonnement de tout le poème. Tout y conduit et tout en part. Tout semble fait comme si, par exemple, nous avions une fleur avec un certain nombre de pétales et que le cœur de cette fleur soit la Gita. À partir de là, je n'ai plus le temps de vous raconter la bataille qui dure 18 jours, 18 étant, dans la tradition indienne, le chiffre sacré. Pas le temps, et d'ailleurs, c'est une bataille maintenant. Nous rentrons dans un récit militaire, stratégique, tactique, où tous les personnages, un après l'autre, du côté des Kaurava, vont mourir. Et d'abord va mourir Bhishma, celui qui ne pouvait pas mourir. Il va mourir parce qu'une femme qu'il a rejetée 60 ans plus tôt, parce qu'il ne voulait pas l'épouser, ayant fait le vœu de ne jamais toucher une femme, cette femme va revenir pour le tuer sur le champ de bataille. Et pourquoi aura-t-elle la force de le tuer? Parce qu'elle-même est passée par la mort. Elle s'est fait brûler sur un bûcher et les dieux lui ont permis de renaître sous un corps d'homme. Et sous ce corps d'homme, elle va pouvoir tuer Bhishma, qui va la reconnaître. On ne sait plus quel sexe il faut employer en parlant de lui ou d'elle, et il ne pourra pas résister à la flèche qu'elle va lui envoyer. Donc, du côté Kaurava, Bhishma va être la première grande victime. La seconde grande victime sera Drona, le maître d'armes, qui va à son tour prendre le commandement suprême et à son tour connaître la mort grâce à une terrible ruse de Krishna. Car Krishna, s'il ne prend pas part à la bataille d'une manière active, il n'a pas d'armes, a son esprit, a sa ruse, a sa voix. Drona a un fils qu'il aime beaucoup, qui s'appelle Ashvataman. Et il est en train de combattre sur le champ de bataille, férocement ce jour-là, dirigeant les armées, quand Krishna a une idée. Il dit à Yudhishthira, tu devrais annoncer toi-même très fort que Ashvataman est mort. Mais Yudhishthira lui dit, il n'est pas mort, je ne peux pas, moi, Yudhishthira, prononcer un mensonge. À ce moment-là, Bhima, son frère, dit, mais nous avons un éléphant qui s'appelle Ashvataman. Alors il sort, Bhima, il tue l'éléphant Ashvataman et il revient en disant Ashvataman est mort. Alors la situation est très confuse, très drôle. C'est une des ruses de Krishna, bien entendu, qui a donné cette idée à Bhima. Drona arrive entendant proclamer partout Ashvataman est mort, Ashvataman est mort, et il s'adresse directement à Yudhishthira en le regardant dans les yeux et en lui disant « Toi qui ne peux pas dire un mensonge, dis-moi la vérité. Est-ce que Ashvataman est mort ?» Alors, il y a un moment de silence étonnant. Yudhishthira le regarde et dit « Ashvataman ?» Il se détourne un instant pour murmurer entre ses lèvres « L'éléphant est mort !» Alors, c'est évidemment une scène très très étonnante parce qu'après ça, Drona accepte ça comme une vérité, se laisse tuer immédiatement. Sa mort est là. Il ne peut pas résister à la mort de son fils. Et du même coup, c'est une scène qui nous dit que tout homme, si pur, si vertueux, si intègre qu'il soit, doit, s'il veut prétendre un jour être un roi complet, un Maharaja, doit passer par l'erreur et passer par le mensonge. C'est ce que la scène nous dit très indirectement. Le combat reprend le lendemain. Après Bhishma, après Drona, c'est maintenant au tour de Karna de prendre la direction des opérations. Ce redoutable, sombre guerrier, fils du soleil, à qui les rayons du soleil, chaque jour, apportent une force nouvelle, qui prend la direction des forces de Kaurava et qui défonce les armées des Pandava au point que Arjuna lui-même ne veut pas lui résister. Que faire? Quelle ruse trouver? À ce moment-là, Krishna, toujours lui, se souvient que, au temps de leur exil dans la forêt, Bhima, le magnifique, le très costaud Bhima, avait eu un fils d'une Rakshasa. Une Rakshasa, c'est une sorte de créature diabolique, mais avec des pouvoirs surnaturels, qui vivent dans les forêts. Ce fils s'appelle Ghatotkacha, et il a promis qu'un jour, si son père avait besoin de lui, il viendrait à son appel. Comme il est doué de pouvoirs surnaturels, il peut-être venir à bout de Karna. Alors, on évoque la terre, on appelle Ghatotkacha, la terre s'entr'ouvre, et un immense personnage, noir, velu, terrifiant, apparaît, et dit à Bhima, tu m'as appelé, je suis ton fils, me voici, que veux-tu de moi? Et alors, Krishna dit, il faut aller se battre contre Karna. C'est très difficile, car Karna est un combattant d'autant plus redoutable qu'il possède une lance qui, s'il l'envoie, doit nécessairement tuer quelqu'un, doit nécessairement tuer sa cible. Alors on assiste à un combat épique, le combat entre Karna et Katutkacha est longuement décrit. Ils ont chacun des armes extraordinaires qui viennent des étoiles, qui viennent de tout un tas de forces inconnues. Mais à un moment donné, Karna ne peut pas faire autrement que de se défaire de sa lance magique qu'il gardait pour Arjuna, qu'il gardait pour son rival numéro un. Donc, acculé, menacé de mort, conseillé, mal conseillé par les Kauravas, il lance cette fameuse arme irrésistible qui, effectivement, tue Ghatotkacha, qui la voit venir vers lui, qui sait que c'est sa mort qui s'avance, qui reconnaît le pouvoir mortel de cette arme et meurt. Alors, tout le monde est désespéré, Bhima pleure son fils, Yudhishthira, Arjuna pleure le fils de leur frère, et Krishna danse de joie. Alors, on se demande, mais on lui dit, mais comment, Ghatotkacha est mort, et toi, tu danses et tu ris? Oui, parce que ce soir, Ghatotkacha a tué Karna. En le dépouillant de cette arme irrésistible, maintenant, il le rend accessible aux armes d'Arjuna. Il le rend en quelque sorte humain. La bataille se continue. Karna meurt à l'épisode suivant. Et Karna meurt d'une façon très belle parce que il est opposé à Arjuna. Et comme ils sont deux guerriers d'égale valeur, chacun sur son char avec ses cochers, on dit même que ce jour-là, Shiva est devenu le cocher de Karna. Shiva lui-même, comme Krishna était celui d'Arjuna, donc nous avons les deux dieux sous des déguisements de cochers qui s'affrontent. Mais Karna, longtemps auparavant, avait commis une erreur et il va la payer ce jour-là. Il faut se rappeler maintenant que au tout début, nous avons parlé de Bhumi, la terre, notre déesse mère, notre porteuse, notre enfanteuse, qui se sent en danger à cause de toutes ces armes qui risquent de la détruire. À un moment donné, au cours de la bataille, tout à coup, la roue du char de Karna tombe dans une ornière de boue. Et Karna descend, veut la tirer, il est très très costaud, avec ses deux bras, la roue résiste. Il tire encore plus fort, il ne peut pas dégager son char. Sans son char, il ne peut pas combattre contre Arjuna sur le sien. Tout le monde regarde cette scène étrange, très célèbre en Inde et mille fois représenté, de Karna essayant d'arracher la roue de son char. Alors Krishna s'approche de lui très doucement, parce qu'il a une véritable estime pour lui, bien que sachant qu'il va mourir. Il lui dit, inutile de t'acharner sur cette roue, je vais te dire qui a saisi la roue de ton char. C'est Bhumi elle-même, avec ses mains boueuses. C'est la terre qui tient ton char et tu ne pourras jamais le lui arracher. La terre, en quelque sorte, se venge en aspirant, en retenant près d'elle avec ses mains pleines de boue, un des plus redoutables des guerriers. Et en effet, Karna comprend, il essaie vainement, dans un dernier geste, de rappeler à lui une formule magique apprise autrefois. Il ne peut pas se la rappeler et Arjuna le tue. Donc, peu à peu, le succès des Pandavas s'affirme. Duryodhana, à son tour, va prendre le commandement suprême. Il va à son tour être tué par Bhima, cette fois, à l'endroit même, c'est-à-dire la cuisse où Draupadi avait dit qu'il serait frappé quand elle l'avait maudit. Et nous nous trouvons maintenant à la fin de la bataille. Indiscutablement, les Pandavas ont gagné. Tous les Kauravas sont morts, les 100 frères et tous leurs alliés. Tout ce qui s'était joint à eux. Les 5 Pandavas sont vivants, mais ils n'ont plus de fils. Tous sont morts. Maintenant, le champ de bataille est couvert de, dit-on, 18 millions de morts. Un chiffre hallucinant. Les femmes vont d'un groupe à l'autre en cherchant leur père, leurs époux, leurs enfants. Il y a une grande scène de désolation. Après quoi, Yudhishthira, le moment étant venu, prend le chemin du palais où il va enfin être roi. Après toutes ces épreuves qui ont duré toutes les années de sa jeunesse, de sa formation, les 13 ans d'exil, les années de préparation à la guerre et toute la guerre, finalement c'est un homme de près de 50 ans qui va monter sur le trône. Il aura fallu tout cela pour qu'il devint véritablement un roi. Il a fallu qu'il passât par l'épreuve du mensonge, par celle du sacrifice de ses enfants, des enfants de ses frères. Il a fallu qu'il connût tout ce qu'un être humain peut connaître pour qu'à la fin, il accepte de s'asseoir sur le trône et d'exercer le pouvoir. Il va l'exercer d'ailleurs pendant 36 ans, c'est-à-dire pendant une durée relativement longue, et il l'exercera très très bien. Personne n'aura à se plaindre de lui. Avec l'aide de ses frères, pendant 36 ans, le monde connaîtra une période de paix qu'on n'avait pas rencontrée, à vrai dire, depuis assez longtemps. J'ajoute simplement en petite parenthèse que à la fin de la bataille, dans ce moment de désolation, Arjuna s'approche de Krishna et lui dit « Mais tu m'as dit quelque chose au début de la bataille, la Bhagavad Gita, ce que nous appelons la Bhagavad Gita. Tu m'as dit quelque chose, j'ai oublié. Qu'est-ce que c'était exactement ?» Et Krishna le regarde et lui dit « Non, je ne peux rien dire deux fois. » Et il le quitte. C'est ce qui me fait dire souvent que le Mahabharata, cet immense fleuve, est aussi d'une certaine manière un poème de l'oubli. Qu'avons-nous oublié de nos origines? Tout poème épique nous montre des personnages qui sont des demi-dieux, dont l'un des géniteurs est un dieu et qui, à un moment donné, empêtré dans les problèmes sanglants de la terre, oublie leur origine divine, oublie leur responsabilité à l'égard de la terre qui les porte, à l'égard de l'univers qui les entoure, oublient leur dharma au profit d'intérêts strictement individuels, souvent. Et même quand une fois l'enseignement suprême leur est donné, ils l'oublient. À plusieurs reprises, au cours du poème, Vyasa doit rappeler à ces personnages qui ils sont, et à plusieurs reprises, on lui demande « Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Qu'avons-nous oublié ? Avons-nous oublié qui nous sommes ?» Oui, en grande partie, ils l'ont oublié. La guerre est maintenant terminée. Il ne reste à Krishna qu'à mourir. Et il meurt très simplement. Ce personnage tellement important dans le Mahabharata meurt en trois lignes. Un jour, il se promène dans la forêt, il se couche sur le sol, passe un chasseur qui prend ses pieds pour les oreilles d'un animal, tire une flèche et tue Krishna. C'est tout. Maintenant, nous allons devoir vivre sans lui. Son rôle étant terminé, la bataille étant gagnée, en quelque sorte, l'avatara de Vishnu s'efface, avec une discrétion exemplaire. Les personnages restent seuls, vieillissent, ils atteignent, selon les calculs que l'on fait, un âge qui est entre 80 et 100 ans. On peut même raconter, si on a encore le temps, le fait que Arjuna, après la mort de Krishna, apprend que des troubles ont éclaté là où Krishna vivait, à Dvaraka, dans la ville où il habitait, que même les femmes de Krishna, qui étaient très très nombreuses, 15 000 je crois, étaient en révolte, abandonnées, qu'il y avait des troubles. Il décide de lui, Arjuna, avec ses hommes, d'aller recueillir ce qui reste de son ami mort et de le ramener chez lui, dans la ville de Hastinapura. Il a plus de 80 ans, mais il est Arjuna, un héros magnifique, on peut imaginer, avec des magnifiques cheveux blancs, un grand katogan derrière, splendide. Il va là, il recueille ces milliers de femmes et les ramène en un très très long convoi vers sa capitale, la capitale où règne son frère. En cours de route, en traversant des montagnes, ils sont attaqués par des brigands, l'arrière-garde si l'on veut. Arjuna, qui est en tête, apprend que des brigands ont osé l'attaquer, lui. Arjuna a attaqué son convoi. Alors, avec son char, il va jusqu'à la queue du convoi, il prend son fameux arc Gandiva, et là, il ne peut plus le bander. Il ne peut plus tendre la corde de son arc assez fortement pour tirer une flèche décisive. Et l'histoire dit, avec cette ironie dévastatrice qui est le propre des grandes œuvres, que les femmes de Krishna partaient dans les montagnes avec les brigands en riant.